Cube Radio.
Alors, la question à 1 million de dollars, Richard. Est-ce que ça se fait de boire du vin le midi? Parce que traditionnellement, on a toujours, toujours pris un petit verre de vin, comme dirait Christian Bégin, avec nos devines qui vient souper, devines qui vient... Bon, mais là, c'est devines qui vient luncher, c'est le midi, dans le respect des consignes sanitaires du Dr Arruda, dans une salle de réunion de CUM. Est-ce qu'on prend du vin ou pas? Est-ce que moralement, c'est acceptable?
C'est ça qui tranche entre si alcoolique ou pas. Tu peux boire comme un trou à partir de 5 heures, tu peux boire comme un trou là, de là à trouler en dessous de la table, il n'y a aucun problème. Mais si tu bois le midi, pour moi, c'est là que ça fait la différence.
C'est pas vrai, parce qu'à ce moment-là, les gens qui prennent des mimosas à 9h30 le matin ou à 10h quand ils font un brunch,
c'est le week-end.
C'est tous des pochetrons.
C'est le week-end.
OK, donc il y a des journées de la semaine où c'est acceptable, puis il y a un horaire.
Le mimosa a été inventé pour boire sur l'heure du midi.
Donc, si tu prends un mimosa le mercredi, t'es un pochetron, mais si tu prends un mimosa le dimanche, t'es juste quelqu'un qui a du fun puis qui aime ça, les brunchs.
Et les brunchs, étaient inventés pour que les restaurants puissent faire énormément d'argent le week-end en vendant des œufs 40$.
Alors, parle-nous donc plutôt de qui on reçoit aujourd'hui à Devine qui vient luncher pendant que j'ouvre cette bonne bouteille de vin blanc.
Ingrid Falaise et Rémi-Pierre Paquin.
Alors, c'est intéressant parce que tous les deux, donc, ont été ou sont comédiens dans des séries extrêmement populaires au Québec. Rémi-Pierre Paquin, il a été dans Les Invincibles, c'est là-dedans qu'on l'a connu. Là, il vient de terminer son rôle de Bidou la Loge dans Les Pays d'en haut. Et Ingrid, bien sûr, on la connaît beaucoup en ce moment à cause de son livre et de la série Le Monstre et tout. Mais à la base, elle a été pendant 6 ans dans Virginie, elle a été dans des films, elle a été dans des séries télé. Donc, c'est vraiment deux comédiens que les Québécois adorent et qui sont très chers dans le cœur des Québécois.
Et Bidou, c'est mon personnage préféré de la télévision.
Toi, tu capotes sur Bidou la Loge. Ben, tu capotes sur Les Pays d'en haut.
Non,
et
mais
tu capotes sur Bidou la Loge.
De voir un comédien là, qui mord dans son rôle. Là, c'est un rôle juteux, c'est un rôle de fun à jouer. Là. Puis tu sais, chaque franc, il a l'air trippé à jouer ce personnage odieux. Là. Et en même temps, je vais lui dire, mais Bidou, c'est en même temps, c'est un petit vite, c'est un ouais, c'est un débrouillard, là, c'est un gars très intelligent. Et il y a quelque chose du Québécois là-dedans.
C'est un crosseur imaginatif.
Oui, oui. Il y a quelque chose du Québécois là-dedans, c'est le système D. Il va tout le temps trouver la façon de crosser quelqu'un.
Mais tu sais que c'est pas lui qui écrit le personnage, hein?
Je sais bien.
Non, mais c'est
amusant parce que... Mais il est tellement bon qu'on pense que c'est lui.
On pense que c'est lui qui l'a créé. Puis écoute, Ingrid Falaise, moi, je suis tellement impressionnée par le parcours de cette fille-là. J'ai visionné hier son plus récent documentaire sur la reconstruction des gens qui ont été victimes de violences conjugales ou les enfants de gens qui ont été victimes de violences conjugales ou les parents de gens qui ont été victimes de violences conjugales. Écoute, ben tu m'as vu hein, quand je braillais tout le long. Je ne sais pas comment cette fille-là peut être aussi lumineuse, rayonnante, percutante après avoir vécu ce qu'elle a vécu. Je ne sais pas.
Mais comme comédienne, comme artiste, il va falloir à un moment donné qu'elle se sorte de ce personnage de victime. Là,
mais c'est pas un personnage.
Non, mais elle a vécu ça, mais là, c'est comme estampillé sur son front. Puis, si elle veut faire autre chose, elle veut-tu être comédienne, elle veut-tu faire autre chose? C'était super utile ce qu'elle a fait, là, incroyable. Elle a sensibilisé plein de gens. Mais je veux dire, comme artiste, elle veut grandir comme artiste aussi. J'imagine, elle veut pas se peinturer d'un coin rien qu'à faire le monstre 1, le monstre 2, le monstre 3. Là, il va falloir un moment donné qu'elle fasse autre chose, est-ce qu'elle a d'autres plans ou peut-être qu'elle veut, c'est ça qu'elle veut faire, elle a des documentaires là-dessus puis ça pour sensibiliser les gens, c'est bien correct.
Ah, un petit sujet léger entre deux gorgées de vin puis une petite cuisse. Hey, d'ailleurs, parlant de repas, moi je pense qu'il faudrait renommer notre émission. Vous appelez le temps d'une cuisse. On est toujours là en train de manger du petit poulet Saint-Hubert avec des frites. Puis de la petite sauce. Le temps d'une cuisse, il me semble, ce serait drôle.
Okay, tu paieras des redevances
à Michel Barrette.
J'ai faim, il arrive pas. On mange-tu? J'ai faim. Et Greta Mère est suédoise, oui. Est-ce que tu faisais des petites boulettes?
Oui. Les viennes végétariennes sont bien meilleures que chez IKEA, ces boulettes.
Donc, c'est pas un mythe, là. Vraiment, en Suède, on mange ça.
Ah oui, mais mon
avec
fils
avec la petite sauce aux érelles.
Oui.
C'est parce que c'était comme le pâté chinois en Chine.
Non, c'est vraiment pas un mythe. C'est la vérité. Les boulettes suédoises sont délectables.
C'est très drôle.
Ouais. Mais ma mère nous a vraiment élevés à la suédoise. Je veux dire, il y avait des drapeaux suédois dans le sapin de Noël. On mangeait pas de dinde, c'était du Gravlax. Janssen's Fresh, c'était le sait. Aran fumé. On parlait suédois à la maison, français avec mon père, suédois avec ma mère. Eux parlent anglais ensemble, fait qu'on a les trois langues.
Le samedi matin, pour amuser les enfants, mettait un film de Bergman.
Ouais. Non, mais j'avais l'école suédoise. Ah ouais.
Au lieu d'écouter.
Le septième saut, c'est ça, pour relever l'atmosphère à la place des comiques. Hey, c'est très drôle. Donc, tu parlais en suédois.
En suédois, j'allais à l'école suédoise le samedi matin. J'ai tellement détesté ça, c'était l'horreur.
Pourquoi t'aimais pas ça?
Ben, à l'école le samedi matin. Ouais. Qui aime ça dans la vie?
C'était où ça?
C'est à Montréal.
Ah oui, hein?
Ouais, chez Ericsson, qui est... oui, vraiment.
Une compagnie suédoise. C'est trop drôle.
C'est trop drôle.
Mais est-ce que t'es allé en Suède, j'imagine?
À chaque 2 ans depuis que je suis née.
Et la première fois, est-ce que tu sentais, c'est chez moi?
Ben, je sais pas, j'étais tout petite. Okay.
Mais tout le monde te ressemble là-bas. Vois, c'est toutes des grandes filles belles avec des cheveux blonds.
Je passe inaperçue là-bas, mais merci pour le compliment, mais je passe inaperçue. Puis ça, quand j'avais 14-15 ans, c'était un choc. Moi, d'habitude, on se retourne un peu dans la rue quand je marche. En toute humilité, je suis blonde. Tu sais, on les regarde. Et non, mais c'est vrai, on a ça. Les gars se retournent. T'as-tu déjà été blonde?
Oui, j'ai été longtemps blonde, mais faussement blonde, alors que toi, t'es une vraie blonde.
Mais là-bas, inaperçu. C'est les grandes brunes, exotiques.
Pourtant, j'ai une amie qui est allée en Suède, c'est une petite brune, yeux bruns, puis elle dit j'étais comme une petite crotte là-bas. Personne me regardait.
Oh,
c'était comme.
Pauvre elle.
Ouais.
Elle était triste.
Elle était
triste. Il existe un univers où les gens ne se retournent pas sur une grille de falaise. Ça me tue.
Et je suis vraiment tue ça.
Évidemment, c'est le paradis parce qu'à chaque fois que, tu sais, le système d'éducation, la Suède, le système de santé, la Suède.
Ah, mais c'est assez exceptionnel.
Tout est parfait là-bas.
Tout est parfait. Je suis allée à Stockholm. Ça m'a fait quelque chose. C'est la première fois parce que nous, on habitait beaucoup plus au sud.
Ouais.
Mes vacances d'été, c'était en Suède. J'allais pas à Shawinigan. Moi, j'allais en Suède.
Hey, tu vois ça de Shawinigan parce qu'il vient de la Mauricie.
C'est un peu équivalent, je trouve.
Ouais, pareil. Ouais. Mais la première fois que j'étais allée à Stockholm, donc c'est à 7 heures de route. Ouais. J'étais enceinte il y a 4 ans. Et j'ai pogné de quoi là-bas. Là. C'est exceptionnel. Il n'y a pas un déchet. L'architecture est majestueuse. Les gens font du sport. À chaque midi, il faut que tu sortes faire du sport.
Pas un déchet, la belle architecture, c'est comme Montréal.
C'est pareil.
Il n'y a pas de tourne-orange en plus.
Non, c'est ça, il n'y a pas de tourne-orange.
Il y a des pistes cyclables partout.
Oui,
bon, ils sont parfaits, les Suédois.
Ils sont parfaits, les Suédois. Ouais.
Donc, toi, tu es à moitié parfaite seulement.
À moitié.
Et toi, Shawinigan, l'architecture, c'est parfait.
Et toi, t'habites, donc, depuis le début de la pandémie, t'as décidé d'aller là-bas.
Certain.
Puis d'en faire ta résidence principale,
ouais,
en fait.
Exact. Je me suis groundé là-bas, puis c'est plus facile d'être résilient au chalet qu'à Montréal.
T'es résilient?
Ouais. Ben, avec la pandémie, là, à un moment donné...
Tu penses que t'aurais déprimé si t'étais resté à Montréal?
Oui. Ah oui, certain. Oui, certain. Je trouve... Puis tu sais, moi, j'adore le fait d'avoir les deux places. T'sais. Ouais. J'adore la ville, je suis sur le plateau Mont-Royal, puis j'adore mon chalet, mais j'aime avoir les deux. Mais Montréal, présentement, moi, j'aime Montréal pour ses spectacles, pour sa bouffe,
c'est
les activités, le théâtre, mais là, il n'y a rien.
Mais c'est comme une belle fille qui perd, qui enlève son maquillage, qui enlève ses faux seins, qui enlève tout, puis là, tu te rends compte que vraiment, elle est aussi jolie que ça.
Non, c'est parce que surtout que Montréal, c'est pas une belle ville. J'ai dit, Montréal, c'est très laid. Ce qui est le fun à Montréal, c'est l'âme de la ville.
Exact.
Puis tu sais, mais si t'enlèves ça, tu te retrouves rien qu'avec une ville LED.
Moi, je trouve que c'est vraiment l'ambiance qui fait que le monde
tripe
ça. C'est la bouffe, c'est les restos, c'est les festivals. C'est vraiment ça là, qui fait que le monde
tripe
ça.
Toi, t'as trois restaurants bars.
Misère.
Toi, là, c'est de l'argent qui parle tout le temps. Là.
Ben oui, c'est des milliers de dollars par mois. Là.
Que tu perds.
Ben oui, qu'on perd. Parce que, tu sais, c'est bien beau avoir de l'aide financière, mais ils payent pas tout. Puis, c'est beaucoup des prêts avec des taux d'intérêt intéressants, mais des prêts, ça reste des prêts. Là,
ben non, c'est sûr, faut que tu rembourses à un moment donné.
Ouais, on creuse un gros trou, des milliers, des dizaines de milliers par mois.
As-tu pensé à un moment donné fermer?
Ben, une partie des salaires, mais en même temps, quand t'as personne sous plancher parce que c'est fermé, tu l'as pas tant.
Ton loyer.
Une partie du loyer, c'est quand même c'est des affaires, mais en bout de ligne, il y a un trou de plusieurs milliers.
Puis, tu avais déjà dépensé de l'argent pour rendre ça sécuritaire. Avec du plexiglas, on avait l'équipement de protection pour les gens. Fait que ça aussi, c'est de l'argent qui est sorti, non?
Ben oui, c'était de l'organisation là, qu'on a faite, là, tu sais. On a mis de l'argent. Puis, tu sais, c'est parce que, aussi, on peut pas s'en aller non plus puis fermer, tu sais. Tu mets 800 000 sur une place, puis à Québec, on venait juste d'ouvrir.
T'es pas sérieux. 800 000
$ sur. Juste parce que c'est pas notre bâtisse, parce que les bons spots, souvent...
800 000! Ouais,
tu peux pas les acheter, là, ils sont loués. Fait, que là, fait que là, tu mets 800 000 là-dessus.
Mais un en an... quoi? En rénovation, 800 000?
Oui, c'est vraiment...
En équipement?
En équipement, la cuisine. Puis ben, nous autres, c'est particulier, là, on fait... On a c'est comme un vieux bar.
Ouais, c'est un trademark.
Ouais,
faut que tu fasses la même chose.
Exact.
Un petit peu partout.
Puis on est fou des détails. Fait que, c'est la tapisserie, c'est des boiseries, c'est des antiquités, des affaires. Fait que, c'est beau. Puis quand tu rentres, tu fais, ben, voyons donc, c'est que je suis. Mais ça coûte cher, ça, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que,
on a mis... de l'investir?
À Québec, ça faisait un an. Mais il y a quand même des dommages collatéraux. Tu sais, nous autres, on a beaucoup de clients qui viennent seuls, puis ils viennent jaser avec la barman, la barmaid. Puis, tu sais, qui viennent prendre une bière.
Sortir souper. De l'isolement.
Ben oui. Mais puis après, ils retournent chez eux, puis ça les. Ils ont socialisé. Ça leur donne un peu d'équilibre, mais ces gens-là. Ils sont maintenant à la maison tout seul.
Mais ça, c'est un très bon point. Puis c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de cet aspect-là, de l'importance d'un restaurant ou d'un bar pour justement se sortir de ça, le contact humain. Oui. Des fois, les gens, la conversation qu'ils ont avec la barmaid ou le barman, c'est la seule conversation qu'ils vont avoir dans leur journée. Fait que si tu leur enlèves ça pendant un an, ben ils se retrouvent vraiment tout seuls.
Oui, vraiment, vraiment. Tu sais, juste de voir du monde... Des fois, quand on a commencé, on a fait un peu de take-out puis des trucs de même, puis il y a une madame qui est rentrée, puis tu voyais que ça faisait longtemps qu'elle avait pas vu du monde. Là. Puis on a vu des... Puis à Hochelaga Maisonneuve, j'ai trouvé des mannequins, puis on les a habillés, puis on les a mis sur une table en avant. T'sais. On a mis ça au début de la pandémie. La madame est rentrée, puis elle a vu les mannequins, puis dans sa tête, ça a comme... Puis elle a essayé d'aller vers les mannequins, mais il y avait un plexiglas. Elle fonçait dans le plexiglas. Elle se plongeait, elle faisait « Madame,
madame! » C'est drôle, mais c'est pas drôle.
Puis là, le plexiglas est tombé, puis elle dit « Oh mon Dieu, elle dit, je suis venue mal, j'ai vu du monde, j'ai voulu aller les voir. »
Mais tu sais que je trouve ça crève-cœur.
Ah, c'est crève-cœur, certain. Il y a quelque chose de triste.
Ça prendrait un scénario de film, là, mais l'image de quelqu'un qui se fait ça dans une vitre, dans une plaque de plaie. Hey, mangez, les amis, on est là, on jase, on est là pour luncher, là.
Pour revenir à Le Monstre et tout ça, là, des femmes sont pognées dans des couples toxiques puis ils peuvent pas sortir. Là, ils sont pognées. Tu sais, parce qu'avant, au moins, tu pouvais ça à quelqu'un ou ton mari allait travailler. Puis là, avec le télétravail, tu es pogné avec eux autres.
Pour la violence conjugale, ça a été
bien,
terrible.
Tu t'entends bien, puis déjà, tu te tapes ses nerfs. Mm-hmm. Fait que dans un couple toxique...
Mais il n'y a pas de répit. Il n'y a aucun moment de répit. Mm. Avant, il y en avait. Autant pour l'homme là qui pouvait aller prendre de l'air, la femme qui pouvait fuir, appeler SOS violence conjugale, là ce qu'on a remarqué, et moi je l'ai remarqué dans mes réseaux sociaux aussi parce que j'en reçois des milliers de messages chaque mois là,
tout le temps,
ça finit jamais. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on m'écrit la nuit énormément parce qu'elle se cache dans la salle de bain, il dort, je vais aller écrire un petit message SOS violence conjugale, on remarquait ça aussi, les appels se font la nuit. Là, il y a Uniprix Proxime qui a mis en place, il y a une petite pastille mauve à l'entrée de la pharmacie, s'il y a une pastille mauve, on peut la repérer là, ça veut dire qu'il y a un endroit sécuritaire où il y a un téléphone et vous pouvez appeler SOS violence conjugale parce que la pharmacie, c'est pas suspicieux. Donc
oui,
c'est un endroit où on peut aller puis que l'homme, là on parle d'hommes violents mais il y a des femmes violentes aussi, là,
c'est bien de le mentionner.
Oui, il faut absolument le mentionner à chaque fois. Il y a plus de femmes qui sont violentées. Alors, on parle au nom des femmes, mais il y a des hommes qui sont violentés également. Et c'est encore plus, c'est tellement sournois, insidieux, c'est épouvantable. Bref, il y a de la violence psychologique très, 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 très forte envers les hommes. Mais il y a cet endroit-là où on peut aller appeler SOS Violence Conjugale pour parler à quelqu'un, essayer d'y voir plus clair, avoir une intervenante au bout du fil. Donc, ça,
quand
ça,
tu
ça
dis
«
je vais en pharmacie, ton chum,
c'est il, ça, exactement.
C'est comme aller à la pizzeria ou aller…
Pizzeria, tu peux pas, sûrement pas. Mais la pharmacie,
mais c'est particulier parce que tu dis « les gens t'écrivent, mais… » Je dirais, à un moment donné, t'es comme, t'as été tellement identifié à cette cause-là que ça doit, des fois, tu dois avoir envie que les gens t'écrivent pour te parler d'autres choses, de la pluie, du beau temps.
Oui. Ben, ils le font parce que j'ai d'autres projets. J'étais à Salut Bonjour. J'ai fait mon premier flip avec mon chum. Tu sais, on va me voir dans d'autres choses. Donc, j'ai,
Belle la maison que vous avez flippée d'ailleurs.
On l'a vendu en 4 jours avec 12 offres. Mon Dieu, le marché est complètement fou en ce moment. Mais il y a d'autres choses. Donc, on m'aborde avec plus de joie, mais on m'aborde aussi avec énormément de peine puis énormément de désespoir.
Parce que comme artiste ou comme communicatrice non plus, tu veux pas rien faire ça. Tu veux pas te peinturer dans un coin. Là.
Non, mais en même temps, c'est ma bataille.
Tu veux faire autre chose aussi. Oui,
ben, on m'a vu avec Guerrière. C'est encore la cause des femmes, mais je dénonce
des
d'autres. D'autres failles dans le système. Donc, on parle plus de violence conjugale dans Guerrière. Aucunement, on a d'autres combats. Mais là, j'ai Face aux monstres, la reconstruction qui sort le 24 mars, qui parle de violence conjugale encore parce que, ben, c'est mon combat. Puis, j'ai pas fini.
Mais tu sais, je pensais à ça, je me disais, tu sais, quand par exemple, Nathalie Simard, quand elle a fait sa sortie puis qu'elle a dénoncé Guy Cloutier qui l'avait agressée sexuellement, elle me l'a dit, puis elle l'a dit évidemment à plusieurs reprises. Toutes les personnes au Québec qui avaient été agressées sexuellement ont vu dans Nathalie comme une porte-parole, une ambassadrice. Puis tout le monde venait la voir pour lui confier des horaires. Mais à un moment donné, elle peut pas prendre toute la misère du monde sur son dos.
On peut pas sauver tout le monde. Ben non.
Toi, c'est un peu ça, là. Tu peux pas épancher la peine ou consoler toutes les personnes au Québec qui ont été victimes de violences conjugales.
Je le faisais au début.
Ah,
en 2015, quand je passais à Tout le monde en parle, puis c'était la première fois qu'on entendait cette histoire-là. J'ai eu un torrent de messages, puis je répondais à tout le monde. J'ai vraiment mis ma vie de côté, puis je répondais, puis je sentais ce devoir-là, puis ça m'a épuisée complètement.
Ben, c'est sûr.
Maintenant, je prends une heure par semaine, puis des fois, ça, je peux même pas le faire parce que je peux plus. Je suis pas SOS Violence Ingrid, là.
C'est bien dit, ça.
Jeannette Bertrand m'a déjà raconté qu'elle est allée s'acheter des souliers. Puis pendant qu'elle était assise, puis le gars qui a essayé le soulier, il dit « Madame Bertrand, je suis impuissant. »
Ah non! Ben voyons donc.
Mon rire, mais c'est pas drôle, là. Mais
il fallait qu'il en parle. Il a vu Jeannette Bertrand pendant qu'elle essayait le soulier. Tu sais, elle peut-tu avoir un break aussi? Là?
C'est comme... Oui, c'est ça. Mais c'est aussi parce que Jeannette, ça a été comme la confession du Québec, tout le monde venait se confier à elle, mais tu sais, il peut pas.
Mais c'est comme quand on porte un rôle, ben souvent les gens pensent qu'on est ce personnage-là.
Toi, est-ce que t'as eu ça? Est-ce qu'avec Bidou, les gens venaient te voir en disant
« Coudon, t'es donc ben ben? » Du whisky. Non, ça a été quand même... C'était plus du monde qui m'approchait comme genre avec de la moraine, là.
Comme
un bec en pincette, je sais pas, tu sais, mais il s'en c'est ça.
Moi, je suis le président du fan club de Bidou, que j'ai créé moi-même, mais je suis président et vice-président. C'est un personnage qui me fait capoter. Vraiment. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est un petit vite, c'est un wise.
Ben oui,
Bidou, c'est un gars qui est intelligent en tabarnouche, là. Puis quand il voit là, la craque où il peut fourrer du monde, là, l'esprit qui va rentrer dedans, c'est le système D aussi, là, Bidou.
Ah, certain. Il n'y a pas, tu sais, c'est pas un gars avec l'éducation, mais c'est streetwise, tu sais.
Oui.
Il veut s'en sortir, puis tous les moyens sont bons. Là.
Mais toi, quand tu recevais les textes de Gilles Desjardins, tu devais capoter à chaque fois, parce que c'était tellement une série intelligemment écrite. C'est un personnage en or. Mais tous les personnages sont des personnages en or. Mais pour un comédien, c'est un cadeau, là.
Et certain. Puis il me faisait faire à chaque fois des trucs incroyables. Tu sais, je pense qu'il s'amusait beaucoup avec moi, là. Fait que j'en suis très, très reconnaissant. Mais j'adorais faire ça, là. C'est débile. Puis tu sais, ce personnage-là, il rentre dans une scène, puis il met la marde. Tu sais, souvent, quand t'es comédien...
Oui.
Tu sais, des fois, on est comme des rôles qui sont plus, je sais pas, t'es plus observateur. Tu sais, ça tourne alentour de toi. Puis des fois, c'est les autres personnages qui viennent brasser les affaires. Mais Moi, ce personnage-là, je rentrais dans l'affaire, puis c'est moi qui brassais.
Puis on le voyait, tu mordais dans ton rôle. Là, c'était un rôle juteux. Là, puis je pense qu'au Québec, là, on a tous un cousin bidou.
Ouais.
Ou un beau-frère bidou, ou un mononcle
un bidouilleux.
Bidou.
Ben, moi, il y a plein de monde là, ça, qui m'arrêtait en disant mon oncle, on l'appelle bidou. Je fais, boy,
c'est gentil pour lui.
Mais non, ça, puis tu sais, c'est le fun parce que autant des personnes plus âgées que des jeunes regardaient cette série-là. Là, c'était vraiment.
C'était rassemblant.
Ah oui, c'est la série que j'ai faite où c'était la palette d'âge était la plus vaste.
Oui, sûrement plus que Les Invincibles parce que Les Invincibles, c'était plus. Oui, c'est ça.
Exact.
Mettons les trentenaires.
Ça montrait que les gens étaient intéressés par leur histoire, leur passé.
Oui.
C'est pas vrai que ça n'intéresse pas les jeunes,
non? Mais non, pas en tout. Il y avait beaucoup de. Puis, tu sais, je me promenais là, avant la pandémie, mais tu sais, je me promenais en région avec des tournées de théâtre. Là, puis là, les jeunes venaient me voir, puis ils trippaient, tu sais. Les petits, là, 9 ans. Hey, bidou, bidou.
Non.
Ils pointaient du doigt. Ouais. Ah ouais, c'était drôle.
T'ennuies-tu d'être comédienne?
Oui, énormément. Oui, ça me manque. Là, il y a des belles affaires qui s'en viennent.
Est-ce qu'on a un scoop
non,
aujourd'hui, Ingrid?
Attends, je vais te faire... Tiens, donne-moi ton vin. Là, je vais te donner du vin blanc.
Ouais.
Et là, tu vas pouvoir nous raconter tout ça, igloo, igloo, igloo. Rémi-Pierre, est-ce que tu veux du...
Certainement.
Bon, ben là, comment ça se fait qu'on n'a même pas servi du vin au début, Richard?
Alors, toi, t'aimerais ça vraiment redevenir comédienne, là?
Ben oui, redevenir, renouer avec le jeu.
Ben renouer, ben oui, c'est ça.
C'est drôle. T'es toujours comédienne, c'est juste que...
Oui, c'est ça, c'est juste que je suis allée ailleurs.
Un job de comédienne, un contrat.
Ouais, exactement.
Voilà. Mais une question peut-être un peu biaisée, parce que je pense que je connais la réponse, mais ce que t'as vécu et tout ce que tu as raconté dans Le Montre et dans les documentaires... Est-ce que tu penses que ça va faire de toi une comédienne différente quand tu vas avoir certains rôles à jouer?
Ben vieillir, ça fait de nous des comédiens différents. Avoir un enfant, ça fait des comédiens différents. On change. Donc oui, absolument, absolument. Tout ça, ça m'a tellement libérée. Avant, j'avais beaucoup, beaucoup besoin de plaire. Puis ça apparaissait dans mon jeu. Ça apparaissait.
Ouais.
J'ai laissé vraiment tomber tous les masques que j'avais. Donc, ça m'a libérée d'une façon. Tu sais, quand tu portes un fardeau, quand tu portes un secret, quand tu portes une histoire qui est très difficile.
Quand tu fais semblant que ça va bien alors que ça va pas bien.
Quand tu fais semblant, exactement, c'est dur à porter puis ça paraît. Et voilà. Donc, oui, ça risque de faire de moi une comédienne différente.
Mais c'est drôle que tu dises de plus porter de masque parce que moi, je te suis sur Instagram. Et les derniers jours, les dernières semaines, t'as mis des photos de toi avec des vêtements très amples.
Oui.
Où on voit pas
la
fille sexy, plus avec des vêtements moulants, sans maquillage, sans bijoux, sans rien, comme si tu voulais un peu casser ton image de belle fille sensuelle et tout. Puis je trouve que c'est très intéressant que t'ailles là.
Ben, c'est tout mon cheminement. Ouais. Je me rappelle, je suis rentrée en thérapie il y a plusieurs années, puis mon amie me l'a fait remarquer parce qu'elle était en thérapie avec moi, Julie Bélanger, qu'on salue d'ailleurs, puis on en parle ouvertement, donc il n'y a pas de problème. Puis elle me disait, tu sais, t'avais tellement de maquillage, puis je me cachais sous le maquillage, je me cachais sous les vêtements, je me cachais, je me peinturais la face, tu sais, littéralement, là. Donc
tu te grimais comme un clown pour masquer le fait qu'en fait, t'étais triste.
Pour masquer plein d'affaires, j'avais tellement, tellement de fuites. Je voulais pas me ressembler, peut-être, finalement, ou toucher à mon essence. Là, je vais avoir 40 ans, moi, cette année, j'ai eu un enfant. Donc, il y a tellement de choses qui ont changé. Puis à 40 ans, j'ai envie d'être Aziz, telle qu'elle. Voici qui je suis. Puis j'ai plus peur. Tu sais, il y a 10 ans, là, j'aurais eu peur d'être ici, avec toi, avec vous.
Ouais.
Mais oui, toujours une petite anxiété. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Mais là,
l'anxiété
je me pose plus cette question-là.
Ouais.
Oui, anxiété de performance. Là, ben tu m'aimes pas. Moi, je m'aime. Puis moi, je suis contente. Puis moi, je suis heureuse où je suis dans la vie. Puis c'est un énorme cheminement. Ça prend des années à arriver là. Fait que je pense que c'est mon 40e aussi. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Puis ça me donne envie de me montrer comme je suis.
Bon, en tout cas, t'es belle, pas maquillée.
Merci.
Mais ça, t'es belle, pas maquillée.
Dire qu'elle ressemblait à un clown.
Non.
Oui.
Pas du tout.
Je m'excuse, c'est ce que t'as dit.
Ça, Nathan, toi, c'est parce que t'as l'esprit mal tourné.
Comme un clown. C'est ça que t'as dit.
À l'époque où elle se maquillait trop, elle essayait de cacher quelque chose. C'est comme un clown, c'est un camouflé.
C'est ce que tu as dit, ce que je me rappelle.
Ben oui.
On peut pas faire d'humour avec ces sujets-là, mais ben, je vais rien qu'essayer. Mais t'as fait le monstre, mm-hmm. le livre.
J'ai peur.
Il y a eu un documentaire.
Oui.
Après ça,
un
il y a
autre
eu
documentaire.
Une série.
Oui.
Une série, il y a eu la suite du monstre. La comédie musicale.
Mais c'est une bonne blague. Ça se pourrait faire une... Il y a eu l'opéra, hein? L'opéra sur Written on Skin, que j'ai... Bon, j'ai pas chanté, mais je l'ai... Ouais. J'ai fait la promotion de cet opéra-là. Donc,
mais pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, c'est un opéra qui parlait de ça.
De violence, oui.
C'est
de
vrai?
Violence conjugale, oui.
Mais tout d'un coup, avec la comédie musicale.
Mais donc, ça se peut de regarder ça d'un point de vue
mais il
comme
faut.
Artistique. Ou
mais
de...
il faut l'aborder de plein de façons différentes. Il faut en parler. Puis, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que la violence conjugale, on nomme les choses. Là, c'est un problème sociétal. C'est un problème de société. Ça nous appartient tous. Ce n'est pas un problème. Oui, ça se passe dans l'intimité, mais on est tous responsables. Ah. J'avais pas. Ben, s'il fallait que je l'écrive. Puis, mais j'ai fait le choix de le publier, par contre. Mais je pensais. En vendre peut-être 5 copies, 10 copies. Je m'attendais pas.
En tout, le 1 et le 2, t'en as vendu combien?
On est rendu à au-dessus de 160 000 au Québec.
Non, c'est bien hot.
Ouais.
Alors, pour ceux qui le savent pas, c'est important de le mentionner. Au Québec, avec le marché qu'on a, on considère qu'un livre qui est vendu à 5 000 exemplaires, c'est un best-seller. Puis tout le monde applaudit, puis tout le monde a des larmes aux yeux.
Ouais.
160 000, c'est énorme.
C'est énorme.
Ingrid.
Énorme.
Surtout qu'on sait que chaque livre, normalement, il y a au moins 2-3 personnes qui se le passent, qui se le prêtent.
Ah oui. Mais c'est énorme, c'est énorme. Puis sans compter justement la France, la Suisse, la Belgique, la Pologne.
Oui, ça a été traduit en polonais.
En polonais. Et là, la série est en Russie, est un petit peu partout. Là, je commence à me faire taguer en russe. Ouais, non, c'est assez formidable.
On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle « Au cœur de la Colombie ».
Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québécois.
Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
La série balado Narcos PQ a été choisie par Apple dans son top 5 des balados de l'année 2022 au Canada. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection.
Justement, quand le monstre est sorti, peut-être qu'il y a des gens qui ont dit, ben là, tu sais, qui t'ont jugé, qui ont dit, mais pourquoi t'es revenu avec ce gars-là? Pourquoi t'as pas réussi à te
sortir?
Ah
oui, tout à fait.
Tu comprends, des gens étaient dans le jugement beaucoup.
Mais ça, c'est une mauvaise compréhension de la violence conjugale.
Ouais.
Au Québec, en moyenne, ça prend 6 à 8 fois. Hein? On quitte 6 à 8 fois avant de quitter pour de bon.
Hey,
ça fait partie du cycle de la violence conjugale.
6 à 8 fois?
Oui, parce qu'à chaque fois qu'on arrive pour partir, ils nous manipulent pour qu'on reste où la peur a été installée. Tu sais, je veux dire, il y a tout un cycle de la violence conjugale. Donc, moi, j'avais aussi ces femmes-là qui venaient valider mes propos et qui disaient, mais moi aussi, ça m'a pris tant de reprises avant de quitter parce que c'est normal. Donc, oui, c'est le genre de questions qu'on me pose. À un moment donné, j'étais tannée de moi répondre moi-même. Alors, j'ai fait un statut Facebook en demandant, vous, les femmes, pourquoi est-ce que c'était si difficile de partir?
Pour que les gens comprennent que c'est pas juste
mais
toi.
Gens,
exactement.
Ça fait partie de la dynamique. D'ailleurs, dans le documentaire sur la reconstruction, à un moment donné, écoute...
Ah, que t'as vu, hein, d'ailleurs?
Absolument.
T'es une des premières.
Qui m'a fait pleurer toute ma vie. Parce qu'à un moment donné, tu parles de l'impact sur la famille. Mmh. Et là, tu fais une entrevue avec ton papa, une entrevue avec ta maman. Et là, ton père, il dit à un moment donné, ben, je veux pas vendre des punchs, je veux que les gens regardent le documentaire, mais ton père, il dit, ben, je me faisais réveiller la nuit parce que ta mère, elle pleurait tellement fort. Écoute, tes parents
ne comprenaient
pas.
Mon père éclate à ce moment-là.
Oui.
Dans le documentaire,
ça te rend ému, hein, d'en reparler.
Ça me touche énormément quand on parle de mes parents. Ben non, c'est correct, quand on parle de mes parents, ça me touche énormément parce que il y a un impact. La violence conjugale a fait des dommages collatéraux.
Ouais.
Et mon père a été extrêmement généreux de m'offrir cette entrevue-là. Ma mère également. Ça a été, j'en ai mené beaucoup des entrevues depuis le premier documentaire. Ouais. Puis ça a été les entrevues les plus difficiles, c'est avec mes parents, parce que je suis redevenue une petite fille. Puis devant eux, je suis celle qui l'a vécu. Tu sais, on a notre histoire. On partage ce récit-là ensemble. Puis je comprends l'impact que ça a eu sur leur couple, sur leur vie.
Mais ça devait être dur pour eux autres.
Très, très dur.
D'être témoin de ça.
Ils sont impuissants.
Ouais, c'est ça.
Mm-hmm. Excuse-moi, je te...
Mais non, mais c'est
des
mais...
phrases.
J'ai deux filles, j'ai deux filles,
25-21 ans, là. Ce serait ma hantise, là,
qui
tombe sur un gars, tu sais.
Toi, tu le vois de l'extérieur, mais tu peux rien faire.
Comme père, je dirais, ça n'a pas de crise de bon sens. Qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là, tu sais? C'est évident qu'il n'est pas bon pour toi.
Mais plus tu dis ça, plus tu viens valider les propos du M en question, qui dit... Ton père m'aime pas comme je suis. Il essaye de te laver le cerveau.
Fait que le père, il dit quoi dans ce temps-là?
Il faut changer. Moi, je viendrais sur le nerf.
Ah, moi, j'aurais le goût de lui casser la gueule.
C'est ça. Moi, je me dis, je le taperais, là.
Ouais, mais on le voit dans la série quand mon père, puis ça, c'est, je veux dire, c'est la vérité, là. C'est ma petite sœur qui a appelé le 911. Ils se sont battus, mais oui, tu sais plus quoi faire. T'essayes toutes les avenues possibles. T'essayes de brasser, t'essayes de faire entendre raison, t'essayes d'être doux, t'essayes d'être catégorique, t'essayes de, mais ce qu'il faut faire, c'est garder le cœur ouvert et dire, tu sais quoi, je t'aime, puis je vais être le mec que tu reviennes. Tu veux partir, tu vas aller valider des choses. C'est le mot qui me revient beaucoup, là. Aller valider, va valider, reviens, je vais être là. Et c'est extrêmement difficile comme parent.
Puis il faut que tu regardes ça sans trop intervenir.
Tu peux pas parce que c'est comme si tu traînes un toxicomane en rehab, s'il a pas envie de se guérir, il le fera pas. Mmh. Une victime de violence conjugale, si elle n'a pas atteint son fond, si elle ne choisit pas elle-même de partir parce que y a un mécanisme de survie là qui rentre en ligne de compte, puis elle décide cette journée-là de se choisir, puis que c'est terminé, puis elle se bat assez fort pour partir, il faut que la décision vienne d'elle parce que tu peux pas la traîner de force. Ça va y prendre 4-5.
Si tu vas casser la gueule au gars, ben c'est encore pire parce que là,
il va être victime.
Il donne des munitions au gars.
Mais exactement, mais c'est ça la manipulation.
Ouais, mais ce qui est très touchant aussi, c'est quand ton père te dit, ben c'est ça que ça fait un parent, ça abandonne jamais son enfant. Oh, moi là, ça m'a complètement mise à l'envers.
Ah, ça me touche beaucoup.
Vraiment là.
Oui, ben c'est ça qu'il a fait. Puis mon père m'a sauvé la vie parce que la journée où il a pas abandonné, malgré toutes les fois où il aurait pu abandonner, ben il s'est déplacé avec un détective privé. Il est allé me chercher. Je suis pas retournée. Je suis pas partie cette journée-là. Mais il est venu implanter un message. « Hey, papa, il est là. Je suis là. Je t'attends.
Ben, » c'est comme quelqu'un qui rentre dans une secte. Là.
C'est pareil.
T'as beau lui dire, là, voyons, non, ça n'a pas de critique de bon sens, les affaires, là, comme
je t'ai vécu. Comme la violence conjugale, moi, je la compare souvent à la secte. C'est pareil. Donc,
avant que vous arriviez, je parlais, parce qu'avec Richard, on se parle tout le temps avant que les invités arrivent, puis je disais, je ne sais pas comment Ingrid fait pour être quelqu'un d'aussi lumineux alors qu'elle a vu un côté aussi sombre de l'être humain. Je ne sais pas, c'est quoi ton secret?
C'est, j'ai ce côté-là, enfant qui s'émerveille devant la vie. Et je l'ai encore, puis ça fait
partie. Tu ne l'as pas perdu.
Je ne l'ai pas perdu. Même si j'ai souvent dit, j'ai 4 ans puis j'ai 100 ans en même temps. Fait que j'ai les deux.
Ouais.
J'ai comme les deux polarités. J'ai ça. Je m'émerveille devant la beauté du monde puis c'est resté ça. Ça, il a pas réussi à m'enlever ça. Mais il m'a injecté énormément de maturité, énormément. Tu sais, j'ai un syndrome de choc post-traumatique qui est encore
là. Des flashbacks,
beaucoup moins. Parce que j'ai vécu toute la reconstruction qui est allée très, très loin en brisant le silence publiquement. Briser le silence sur la place publique, ça fait en sorte que je me sens plus toute seule au monde, puis ça a enlevé la honte. Souvent, on est très honteux. Ben, je me suis rendu compte que j'avais pas à avoir honte d'avoir vécu ça parce que c'est pas de ma faute. C'est de sa faute à lui. Fait que moi, je remets la responsabilité sur lui, puis ça m'a amené ça, briser le silence publiquement. Ça a accéléré ma reconstruction, puis j'ai tellement donné de conférences. J'en ai tellement parlé. J'ai tellement raconté cette histoire-là que c'est comme si elle m'appartenait plus. Elle appartient au public. Et ça aide à guérir mieux, puis je trouve ça extraordinaire. Donc là, je me concentre. J'ai pu aimer à nouveau. J'ai pu être enceinte. Je pensais jamais être capable de porter un enfant parce que je me sentais prisonnière. J'avais peur de me sentir prisonnière. Mais on peut pas m'enfermer nulle part. Là, je veux dire, il faut tout le temps que... Pour moi, c'est difficile en ce moment que la porte soit derrière moi. Il faut tout le temps que je vois les possibilités de...
C'est de libérer. Donc, on aurait été mieux de t'installer de ce côté-ci.
Oui, mais j'arrive que tu à vois faire maintenant. Porte. Sinon, avant, je vous aurais demandé de changer parce que j'aurais pas été capable. Là,
depuis combien de temps t'es capable de le faire?
Depuis la sortie de mes livres. Parce que cette histoire-là, c'est, je l'ai extirpée, puis je l'ai offert aux autres. Puis ça, c'est extraordinaire.
Je capote. Mais il faut que tu sois tout le temps que tu es dans ton champ de vision.
Oui, au restaurant.
Une porte de sortie, comme le symbole de la porte de sortie.
Comme les chefs de groupe criminel, un petit peu.
Ben oui, tout à fait. Oui. On a tous vu Les Sopranos. Ben on sait qu'il y a eu Tony.
Tony regarde tout le temps dans le
coin. Tony, c'est moi.
Ingrid, j'ai pas lu ton livre, fait que je connais pas tous les détails, mais je sais pas si c'est une question qui se pose, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui est devenu ce gars-là? Ou?
C'est une des questions qu'on me pose le plus souvent.
C'est vrai? Ah ouais.
Oui, c'est une très bonne question.
Ouais, excuse-moi.
Écoute, pas tout le monde qui connaît tous les détails.
C'est vraiment pas pertinent de me poser cette question-là, mais c'est très pertinent, effectivement. J'ai su il est parti du Québec, en fait, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai reçu une lettre de divorce. Si on le voit dans la série, j'ai reçu une lettre de divorce qui est signée par lui puis qui est écrite en arabe. Je sais qu'il est retourné dans son pays d'origine. Je sais qu'il n'a pas le droit de revenir ici. Ou s'il revient, ben il va être arrêté parce qu'il a quitté. Il était illégal ici, donc il a quitté. Mmh. Il a été déporté. Quand tu quittes, quand tu passes les douanes pour retourner, ils savent que t'es illégal, là. Donc, ça, je sais ça. Sinon, non.
Ça va être une sécurité, ça, de savoir qu'il peut pas revenir au pays?
Oui, absolument, mais il y a toujours tout plein de façons. Fait que moi, la sécurité, je l'ai jamais, puis je l'aurai jamais. Puis d'être public, d'avoir écrit tout ça, d'avoir la série, d'avoir ma face sur les livres, c'est un danger. Je dors jamais tranquille le soir. Puis les portes
faut que
ça barré, puis je dors jamais tranquille.
Ah ouais.
Puis ça, je pense que ça va toujours me suivre. Puis j'ai toujours une oreille tendue, puis je regarde toujours
en
arrière.
Ta mère dit ça dans le documentaire.
Elle dit ça
aussi.
Dans le documentaire, oui.
Ouais, elle dit ça, elle aussi, qu'elle est toujours en train de regarder derrière elle.
Ouais.
Et ta mère dit aussi qu'elle a beaucoup de difficultés à faire confiance aux gendres, à ses gendres.
Ah, ça a pris une éternité.
C'est fou, hein?
Oui, mais avec raison. Avec raison. Souvent, on retombe dans les patterns. Moi, je suis pas retombée dans aucun pattern, mais après avoir vu son enfant être blessé par un homme autant, c'est sûr que la confiance, elle arrive pas spontanément. Puis moi, c'était pareil. Là, je veux dire, j'en ai niaisé des gars dans ma vie, puis je suis pas tombée amoureuse jusqu'à Cédric, il y a 8 ans. Mais sinon, je jouais à mon tour avec les hommes parce que je pouvais pas aller là. Je pouvais pas. Je les haïssais à quelque part. Tu sais, je voulais pas être vulnérable. Je montrais pas. Je mettais des masques, encore une fois, de clown.
Pourquoi tu ne nommes pas le pays d'où vient M?
Parce que j'avais pas envie qu'on dise justement, ah, il vient de ce pays-là, alors c'est pour ça. J'avais pas envie de mettre un visage, j'avais pas envie de mettre un nom, j'avais pas envie de mettre un pays, un...
Mais tu sais, mettons s'il était venu de Allemand ou de Rouyn-Noranda.
Je l'aurais pas fait non plus. C'était un choix très éclairé. C'était difficile dans l'écriture, d'ailleurs, mais c'était un choix éclairé. Parce que la violence conjugale, c'est ce que je dis souvent, là, a pas qu'un seul visage, a pas de pays, a pas de continent, a pas de religion. Et on peut en vivre à 14 ans, à 60 ans, qu'on s'appelle Jean-Claude ou qu'on s'appelle Mohamed, tu sais. Ça change rien. Ils ont tous la même façon de fonctionner. Ils ont tous les mêmes stratégies. Tous. C'est assez fascinant. Merci, d'ailleurs.
Parce que, et ça, c'est, je m'embarque sur un terrain très glissant, vraiment, et délicat.
Mm-hmm.
Mais je pense que tu vas me comprendre.
Mm-hmm.
Tu as vécu, c'est épouvantable, c'est toi la victime, c'est lui. Mais est-ce qu'on peut aborder ça, ce problème-là, sous l'angle de la santé mentale? C'est-tu des gens, ces hommes-là, sans dire les pauvres victimes, je vais pleurer sur leur sort, c'est pas ça. Mais je pense qu'un homme, un matin, il se lève pas en disant, m'a collé, c'est un coup sérieux à ma blonde. Il doit avoir quelque chose qui marche pas dans les deux oreilles de ces hommes-là. Et est-ce qu'on devrait pas les traiter aussi, Christy?
C'est pas tout à fait ça, en fait. La violence conjugale, c'est pas que de la santé mentale. Oui, il peut avoir des problématiques de santé mentale, mais c'est surtout un désir d'avoir le contrôle. C'est du contrôle coercitif, du contrôle sur l'autre personne. Mm-hmm. Puis ça date de notre éducation. Ça date de très, très, très loin. Donc, ils dominent, ils veulent avoir le contrôle. Eux, en fait, les M de ce monde-là, ils se servent de l'amour de leurs victimes pour assouvir leurs besoins de contrôle, de domination, d'avoir raison. Puis, donc, ils vont tout faire, toutes les stratégies possibles pour contrôler, ils carburent à ça. Puis, on connaît tous quelqu'un qui est bien contrôlant. Tu sais.
C'est un manque de confiance.
Légèrement, oui. Ah oui, manque de confiance. Ouais. C'est des manques, oui, ouais. Là, mais moi, je suis pas psychiatre. Là. Oh, oui. Mais je trouve ça super intéressant parce que j'aimerais ça comprendre. J'aimerais ça comprendre qui ils sont.
Il y a un gars qui a fait son coming out à un moment donné.
Éric Rémy.
Mm-hmm. Lui, il était un chroniqueur culturel.
Oui, ben oui. Il a travaillé longtemps.
Lui, il se faisait battre au bout, lui, par sa femme.
Ah, mais moi, je connais plein d'hommes. Dans le milieu gay aussi, énormément. Mm. Dans le milieu dans LGBTQ, plus, je les nommerai pas.
Mais dans ton documentaire, il y a une femme violente.
Il y a une femme violente et je connais beaucoup d'hommes qui ont été violentés par des femmes à se faire ouvrir la face, à se faire pitcher des bacs de recyclage sur le char, à tout casser dans la maison avec un bat de baseball devant les enfants.
C'est pas un mythe, ça.
Non, mais c'est pas rien. C'est pas rien de la violence psychologique.
Non, c'est de la violence conjugale. Puis ce qu'on n'a pas mis dans le documentaire, c'est quand la femme dit, puis j'aurais aimé ça le garder, mais on n'avait pas assez de temps, c'est quand la femme qui est, puis elle est jeune, puis elle est belle, là, elle a une perruque et tout, mais elle est magnifique. Puis quand elle dit, moi, je savais que la police ferait jamais rien, fait que je pouvais faire ce que je voulais. Je savais que la police, elle l'embarquerait lui, pas moi.
D'abord.
Elle était très, très, très au courant de
ça. Parce que c'est une femme. Et ça, c'est terrible parce que la police arrive sur les... T'appelles la police au 911, tu dis, mes voisins, il y a un cas de violence conjugale.
C'est le gars qui va
se faire arrêter. La police débarque, elle voit un homme et une femme, mm-hmm. Elle ne pose pas de questions, elle embarque le gars.
Oui.
Non, avec des menottes devant ses voisins, ses enfants.
Non, mais c'est que elle pose pas de question savoir qui a frappé qui. Mm-hmm. Ils prennent pour acquis à la base que c'est le gars qui a agressé la fille.
Moi, je connais un gars qui a fait un arrêt d'agir sur sa femme violente. Puis, en faisant un arrêt d'agir devant les deux enfants, il a fait des bleus sur les bras. Toute la semaine d'après, elle marchait là, avec une camisole pour montrer les bleus, ses bras qu'il avait fait. Tu sais.
C'est quoi un arrêt d'agir?
C'est parce qu'elle est en train de déchiqueter le visage puis de l'ouvrir.
Donc,
elle
était en autodéfense?
En autodéfense, un arrêt d'agir. Arrêtes, les enfants, vous êtes en sécurité, arrête ça tout de suite. Puis ça a laissé des marques. Fait que c'était, elle a montré à tout le monde qu'elle était victime. Tu sais.
Oui, mais t'es arrivé quelque chose de...
Vas-y.
Avec, moi, j'ai eu une relation toxique, là, tu sais. Puis, j'avais jamais eu ça avant. Là. Puis, tu sais, c'est...
Ah ouais?
Ouais. Puis, maintenant, je regarde ça, puis je fais... J'étais cave. Puis avant ça, je pensais pas que ça existait. Tu sais.
T'étais pas cave, t'étais manipulé.
Ouais. Puis là, à un moment donné, je me rappelle un moment où, tu sais, je travaillais le lendemain matin de bonne heure, bien de bonne heure. Puis là, tu sais, quand tu tournes, il fallait que je sois dans mes affaires. Puis, là, tu sais, quand elle savait où picosser, tu sais, puis elle revient un peu chaud d'ail. C'est tout le temps
tout
quand
le temps,
il y avait chaud d'ail que ça arrivait. Puis là, ping-ping, à pointe, à picosse. À un moment donné, je fais comme, c'est comme une mouche qui tourne dans l'oreille. Puis j'ai senti monter un, tu sais, juste être sur le nerf, là, tu sais, mettons, devenir. Là, j'ai fait, regarde, j'ai dit là, je l'ai pris, mais vraiment pas violemment. Ah. Là, j'ai juste pris, puis je l'ai, parce qu'elle avait aussi son appartement, j'ai juste mis l'autre bord de la porte, tu sais. Mm-hmm. J'ai dit, s'il te plaît, reviens demain. Là. J'ai dit, il faut que je dorme. Là. Ça marche pas, là. T'es pas correct, tu sais.
C'est souvent dans des moments comme ça pour saboter ton succès le lendemain.
Ben, c'est ça. Puis là, tu vois, j'avais pas vu ça demain. Mais, puis elle a...
Elle savait sur quel bouton appuyer.
Ah oui, puis là, dans le corridor, elle a appelé la police.
C'est pas sérieux.
Et là, elle a rappelé la police, puis elle a dit, non, excusez-moi. Puis là, la Kong, elle dit, je pense que j'ai fait une gaffe. Là, j'ai appelé la police, je l'ai rappelé, mais là. Je fais non. Et là, les polices sont arrivées quand il y a une affaire de même.
Ben oui.
Et là, moi, je me voyais des histoires, j'ai fait, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui va se passer? Puis finalement, les policiers, là, j'ai expliqué, puis elle a dit, excusez-moi, là, c'est moi, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, je l'ai juste mis à l'extérieur pour qu'elle s'en retourne chez eux, là. J'ai dit, tu sais, t'as quatre polices qui rentrent là, dans ton appartement. Là, je suis là.
Tabouin.
Puis là, je dis, vont-tu me croire? Tu sais, qu'est-ce que.
Là, tu vois ta carrière down the drain.
Hey, je capotais. Finalement, ils m'ont cru, puis ils sont allés la reconduire chez eux. Puis une des polices qui a demandé son numéro de téléphone.
Ben, une sorte.
T'es pas sérieux?
Non.
Et ils sont heureux, ils ont eu trois enfants.
Non, c'est lui qui est pogné avec.
Ouais, c'est ça. Il m'a appelé où je l'aide.
Parce que tu jouerais, as-tu déjà joué un rôle vraiment, ben Bidou, comme tu dis, Bidou, il est comme, il est ouais. sympathique.
Ouais, mais tu sais, un batteur de femme.
Non, jamais fait ça.
Un enfant chien.
Non. Non, jamais j'aimerais ça, par exemple.
Ben ouais. Oui.
Ben oui, c'est le fun, ça. Oui, moi j'aimerais ça, mais non. Ouais.
Mais quand même, quand t'es marqué comme toi, par exemple, par Bidou,
ouais.
est-ce que c'est vrai ou c'est juste un mythe, puis c'est juste des affaires de comédiens que vous dites, oh mon Dieu, je suis en deuil de mon personnage? Tu vraiment, là, quand tu, la dernière scène que tu tournes avec un personnage, tu vraiment un deuil ou c'est juste du blabla de comédien?
Mais c'est pas tant avec. Oui, il y a un côté de deuil, puisque ce personnage-là, j'avais vraiment du fun à le faire. T'sais. Fait que je me disais, ah, je vais-tu. Mais en fait, c'est le personnage, mais c'est tout. C'est la série d'époque.
Ouais.
Est-ce que je vais, dans ma vie de comédien, avoir encore la chance de faire une série d'époque ou faire quelque chose de même, faire du cheval, tirer du gun, des affaires comme ça, avec un CCM super talentueux qui te font des maquillages fous? Avec,
c'est le deuil de l'équipe ou
ben
c'est
oui,
de la famille?
Ça faisait 6 ans qu'on faisait ça. Là, fait que c'est l'équipe, c'est la production. Mais tu sais, le personnage, oui, parce que c'est un beau terrain de jeu, là, ce que Gilles m'écrivait.
Mais quand tu construis un personnage, t'es un comédien, là, t'assais-tu devant le miroir chez toi, différentes façons de te tenir, ou des accents, ou la façon.
Tu fais pas ça,
Filmes-tu? Comment ça, tu construis un personnage?
Mais les costumes, ça aide quand même.
Les costumes, ça aide, mais tu y vas de l'intérieur, là. Tu lis, en fait, les textes au départ. Là, moi, je suis tout le temps. Je suis un gars bien relax dans la vie, mais. Ma première journée de tournage, je suis avec un nouveau personnage, tout le temps un peu... J'ai la misère à dormir, là, parce que j'arrête pas de penser.
Ouais.
Ouais, je pense que... Parce que ce que tu mets... Tu sais, ce que j'ai fait de la première journée de tournage...
T'es obligé de le tenir?
Je l'ai tenu pendant 6 ans.
Mais tu l'essayes pas avant.
Non, j'y pense. Je pense beaucoup, tu sais.
Puis là, c'est comme, mettons, OK, c'est ta première scène, première journée de tournage, puis c'est là que tu le shoots.
Je le fais, tu sais, je le joue. Je joue mes lignes, puis tu sais, mais je me regarde pas. C'est comme... Je veux que ça parte de l'intérieur, parce que, tu sais, c'est plus facile. C'est plus facile de mettre tes repères à l'intérieur, parce qu'après, t'es ça toujours.
C'est un tiroir.
C'est ça. Tu me vois maintenant en tournage, amenez-moi un miroir. Puis là, bon, je vais essayer de retrouver ma face que j'ai faite chez vous dans le salon. T'sais, c'est plus fun d'avoir. C'est plus efficace d'avoir ses repères à l'intérieur.
Je suis en train de lire la biographie d'un grand metteur en scène de cinéma et de théâtre qui s'appelle Mike Nichols.
Ah, Mike Nichols, oui.
Mike Nichols qui a fait The Graduate, qui a fait...
Ah oui, ben oui, ben oui.
Et lui, c'est un grand metteur en scène de théâtre avant de faire du cinéma. Complètement brillant. Et lui, il travaillait avec les comédiens, puis dès qu'il sentait que le comédien avait une béquille, là, on en a tous, moi j'ai des béquilles d'écriture, là, tu sais, comme dès, lui, il cassait. En disant, non, on va recommencer le rôle, puis tout ça, puis là, je veux que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait, puis que tu n'aies pas de béquille, puis que, vous en avez tout, j'imagine.
Mais sur les pays d'en haut, plusieurs personnes avaient la béquille de dire, OK. Puis même, c'est pas écrit, mais.
À cette époque-là, on ne
faisait
pas
le béquille. Fait que, tu sais, ça arrêtait bon, tu as dit, OK, j'ai dit, OK, bien, on reprend la scène.
Il n'y avait pas de OK à l'époque.
Non, il n'y avait pas de OK à l'époque, puis, c'était
très
strict, on ne pouvait pas dire OK. Fait que là, tu es en train de faire une scène, ça va bien. Là, tu fais ouf, qu'est-ce que ça va bien, on est dedans. Puis là, on est. OK. Ah! Tu viens de dire, OK, maléfique, obligé de recommencer la scène.
Fait que t'avais comme un conseiller historique?
Ben, c'est la scripteur qui était là, puis qui, elle.
Ça, les textes sont vraiment. Sont repassés au ping fin. C'est le mot que je cherchais, par tellement de personnes jusqu'au diffuseur qui approuve chaque mot. Puis après ça, quand le comédien arrive puis change tes phrases, puis change tes mots en tant que scénariste, tu fais comme, mais non, c'est parce que ça a été choisi. Parce qu'il y a peut-être une répétition dans une autre scène de cette phrase-là, mais différemment écrite pour un autre personnage où il y a peut-être des raisons derrière chaque mot. Puis ça a tellement pris de temps les écrire, ces dialogues-là. Donc, c'est la moindre des choses d'avoir un respect pour jouer exactement ce qui est écrit.
Mais ça arrive des productions qu'il faut que tu réécrives parce que
c'est moins bien
écrit. Il n'y a pas tant de personnes qui sont repassées.
On n'aimera pas personne. Mais ça aussi, ça doit arriver.
Ah, c'est ça.
On se passe à un deuxième verre de vin pour éviter un paquet. On veut des noms.
Quand t'es comédien, c'est comme n'importe quel autre job. Des fois, tu fais la job pour gagner ta vie. Là, mais tu fais que tu les vois, là, toi, tu sais. Tu as travaillé des fois quand tu as travaillé, mettons, dans les pays d'en haut. Des critiques de texte, là, puis après ça, tu t'en vas dans d'autres productions, puis tu dis...
Mais non, c'est clair. Puis des fois, il y en a qui ont une certaine poésie, tu sais, puis une certaine façon, comme Isabelle Langlois avec j'ai fait Rumeur, mais avec Armand, avec elle. Puis elle écrit vraiment d'une façon particulière, tu sais, puis c'est vraiment le rythme, tu sais, la partition est super précise. Fait que tu changes rien, tu changes pas un mot là, parce que c'est, tu sais, tout se parle, puis le rythme est super étudié. Là,
fait que t'as hâte de remonter sur scène.
Ben oui, puis cet été j'étais censé jouer une pièce sur David Saint-Jacques, l'astronaute, parce que moi j'ai fait une pièce solo, Antarctique solo, sur Frédéric Dion qui est allé en Antarctique. J'ai fait ça.
Je me rappelais pas
sans
de ça.
Quelque chose.
Tu as fait du théâtre?
Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Mais comme ça, le show solo que j'avais fait, c'était un solide défi. Là, ça
comment tu fais? Tu devais capoter des fois, d'oublier ton texte?
Ouais, oui, certain. Puis tu sais, tout des. Ben, j'avais des changements de costume, des affaires, des manipulations. J'étais comme. Pour être sincère, la première fois, puis c'est Pierre-François Legendre, mon ami.
Ton twin, que les gens pensent que t'es lui.
C'est exact. C'est lui qui faisait la mise en scène, puis là, à la première, on a eu des problèmes techniques avec le décor, les costumes, fait que j'avais pas eu le temps. Je l'avais pas fait une fois correctement avec toute la technique. Il y avait beaucoup de cues, là, puis tout, puis j'ai fait « Oh, mon Dieu! » Et 15 minutes avant de monter sur scène, déjà, que je suis comme... puis après ça, me dit « Je voulais pas te le dire, mais là, je suis allé voir en haut, puis tu vas les spotter, c'est sûr. » Les médias sont là à soir.
Oh non!
TVA, Radio-Canada, puis il y a des journalistes de Montréal qui sont descendus. Je fais, j'ai fait, c'est inhumain.
Je comprends.
Je décolle, je m'en vais.
J'ai vraiment eu du fun. Niveau de trac.
Oui, j'ai eu du fun parce que ça a été magique, puis tout.
Heureusement.
Tout s'est placé, puis là, je suis sorti de là, puis c'était euphorisant, mais j'ai vraiment failli ça.
Mais t'avais pas dormi la veille, je me souviens.
Ben,
non, parce que la fille Chaudard, il était allé la voir en train de l'accoster, qu'elle était venue, c'est arrivé.
La police est abattue avec
son ex.
Tout ça, c'est la même jour. Tout ce que j'ai raconté aujourd'hui, c'est le même deux jours.
L'horreur. Mais moi, je ne sais pas comment vous faites, les comédiens, parce que ce trac-là, en direct, de plan.
Ouais.
Mais quand tu dois dire un texte, tu te trompes dans ta ligne, tu es tout seul sur scène, là.
Non, c'est fou.
Ça t'est déjà arrivé?
Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir un moment, un blanc, là, tu sais. De plus savoir où est-ce que je suis, puis...
Tu t'en dis de ta mère,
un blanc, 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 là, tu sais.
Comment t'as fait?
Vraiment.
T'as repogné à patente?
Puis, en fait, c'est arrivé un drôle de moment, parce que c'est sûrement pour ça que c'est arrivé, mon blanc. Mes frères ont décidé que c'était une bonne idée de me faire une surprise, puis d'inviter toutes mes amis, mes oncles, mes tantes, dans la même soirée.
Encore une fois, des gens qui t'ont prévenu qu'il y avait des gens que tu connaissais dans la salle.
Il me dit, là, je vais te le dire. Ben voyons donc. Tu sais, déjà, c'est stressant quand tu connais un peu de monde. Mais là, je connaissais tout le monde dans la salle. Là, je fais, c'est une belle cave. Pourquoi j'ai fait ça, là?
Avec des pancartes, puis toutes des pancartes.
Fait que là, je fais, non. Puis là, c'était assez détendu comme atmosphère. Tout le monde est là. Il y en a qui fait longtemps, des cousins qui se sont pas vus depuis longtemps. Là, je fais, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de sens. Fait que là, je pars et un moment donné, j'entends une de mes cousines qui a un drôle de rire. Puis depuis qu'on est jeune dans les parties de famille, elle a tout le temps son drôle de rire, puis on se fait des jokes sur son rire, puis là, elle part, là. Puis là, ça me fait, oh, mon Dieu. Puis là, je sens que toute la famille dit, mon Dieu, hein, son rire. Puis là, elle arrive fort.
Ouais,
et là,
c'est drôle.
Mon Dieu. Et là, blanc. Et je sais plus où est-ce que je suis pantoute. Et là, vu que j'aurais jamais fait ça, là, ça m'est déjà arrivé des fois des blancs puis que je réussis à rattraper, mais là, vu que j'étais avec ma famille, je fais, bon, ben là, vous êtes chanceux. J'ai un blanc.
T'es pas sérieux.
Ouais, je l'ai dit. Puis là, Pierre-François et Cynthia, sa copine, qui m'avait aidé avec le texte puis tout ça, j'ai dit, Cynthia, t'es-tu au courant où est-ce que je suis rendu?
Pis non.
Là, Cynthia qui répond, je suis un peu chaud d'air, là, je ne sais pas trop.
C'est un cauchemar, on rêve à ça, la veille.
Et là, Pierre-François, qui était lui en bas, il apparaît en arrière, puis il est rendu là. Et là, tout le monde rit parce que sa face est apparue dans le décor.
Ah, oh, quelle horreur!
Puis là, je reprends, et c'était pas une scène comique, là, c'était une scène dramatique. Là,
mais heureusement, c'est devant des gens que tu connaissais.
Mais t'imagines, c'est déjà arrivé, nous, au Rideau Vert. Tu te souviens pas?
Oui,
il y a un
comédien,
c'était au tout début de la pièce, le comédien rentre sur scène et là, il se trompe dans son texte et là, il a dit « Excusez-moi ».
Je dois
il est sorti de scène.
Ah oui,
il y a eu comme une petite pause, il est revenu sur scène. Écoute, c'était un soir de première.
Oui.
Écoute, le malaise dans la salle.
Ben, je pourrais
et
pas
après,
faire ça,
tout le monde l'a applaudi parce que.
Ben, okay,
parce que c'est ça la magie du théâtre ben, aussi. Ouais. Là.
Justement, au Rideau Vert, je faisais le Spoons, puis j'étais avec Raymond Bouchard, puis c'est un bout où c'est vraiment un bloc à lui. Là, c'est lui, c'est un monologue. Puis, fait que là, puis moi, c'est mon break parce que j'étais là tout le long. Si t'es des lignes, je dansais, je faisais des affaires. Là. Enfin, là, j'étais avec Raymond. Puis là, ouais, Raymond, vas-y. Puis, il y a un blanc. Puis ça a duré là, un bon 50 secondes. Là.
Ah!
Et là, petit, tu commences à entendre. Oh mon Dieu, on dirait que c'est pendant des affaires.
Non.
Et là, Raymond, il repart ça. Puis qui repart. Puis ça va bien. Puis là, après, c'était un programme double. En fait, on le faisait deux fois dans la journée. Fait que là, après, je fais, hey, Raymond, on peut se refaire ça. Là, ouais, pas de problème. Voyons, donc, le monde a aimé ça. Là. Ils ont vu ça. Puis vraiment, j'ai vu un pro, il fait... Ça fait partie du théâtre. Là.
Mais oui, ah, c'est ça.
Puis, il n'y a ben jamais voilà. fait de blanc, mais moi, j'ai fait... Hey, moi, j'aurais été sur le nerf.
Ah,
mais
ouais.
tu sais, je voyais l'espèce de sage qui fait... Ah non, regarde. Puis je l'ai vu, il a tout rechecké ses affaires, puis il a travaillé entre les deux shows, puis il est ressorti.
Incroyable. Ben écoutez, merci les
c'est
amis.
C'est plaisir, c'est le fun.
Ça a été une belle rencontre. Fait que Ingrid, est-ce qu'on te verse un deuxième verre de vin pour que tu nous dises c'est quoi ta... Ça va être au cinéma, à la télé au théâtre?
À la télé.
À la télé.
Oui. Pour jouer avec un accent. OK, je dis plus rien.
Tu joues avec un accent suédois?
C'est un beau défi. J'ai pas dit lequel, mais non, c'est bien le fun.
Puis on
mais
a fait
je peux pas rien dire.
La comédie musicale Le Monstre.
La comédie musicale Le Monstre.
Moi, j'en suis en train de claquette.
Ah oh, oui, la claquette. Il y a l'opéra qui s'en vient également, Richard.
La scène de claquette dans Le Monstre, oui. dans Le Monstre 3.
Merci.
Hey, merci.
Vous avez écouté le balado de Vin qui vient luncher avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, William Boivin. Au montage, Philippe Séguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une production, Cube Radio.